Bonjour et bienvenue dans Féminisanté, le podcast qui parle féminisme et santé. Après une petite période d'hibernation qui a duré à peu près 2 mois, ça y est, je me réveille enfin et on est reparti pour un nouvel épisode. Aujourd'hui, on va parler de ce que c'est d'être une femme soignante. Comment est-ce qu'on peut pratiquer dans un univers sexiste, dans un monde d'hommes où la médecine a été créée par les hommes pour les hommes? Et pour ça, on va un peu revenir dans le passé. Comment les femmes ont-elles été exclues de tout ce qui était études médicales? D'abord, ce qu'on peut dire, c'est que les femmes ont toujours été des soignantes. Elles étaient avorteuses, infirmières, conseillères, pharmaciennes ou sages-femmes. Elles ont pratiqué pendant des siècles des médecines sans diplôme car interdites d'accès aux livres, au baccalauréat et aux études de médecine. Elles se transmettaient alors le savoir de mère en fille ou leur expérience de voisine en voisine. Elles étaient guérisseuses au service de la population paysanne. Et la répression fut d'autant plus forte qu'il y a eu création d'une nouvelle profession médicale masculine sous la protection et le patronat des classes dirigeantes. La médecine des femmes était synonyme de lutte des classes. Les femmes soignantes étaient les médecins du peuple. Leur médecine faisait partie d'une sous-culture populaire. On ne peut donc pas échapper à l'association faite par les chasseurs de sorcières entre celles-ci et les sages-femmes du XIVe siècle. Cependant, il serait exagéré de dire que toutes les femmes condamnées pour sorcellerie étaient des guérisseuses ou des sages-femmes, étant donné qu'il n'existe à ce jour que très peu de statistiques concernant la profession des femmes qui ont été accusées de sorcellerie. Il fut ensuite établi la nécessité d'avoir une formation universitaire afin d'exercer la médecine, ce qui, inévitablement, en induit d'interdire la pratique aux femmes, sauf pour les soins obstétriques qui étaient considérés comme des sous-soins et restant encore dans le domaine des sages-femmes, jusqu'à ce que le forceps fasse son apparition et que, de par sa classification comme objet chirurgical, soit investi par les barbiers chirurgiens d'abord, puis, lorsque cela devint un vrai business lucratif, par les médecins du XVIIe siècle. Les femmes furent alors reléguées inévitablement au rôle subalterne de l'infirmière. À l'heure actuelle, les femmes représentent 67% du personnel de santé et de soins dans le monde. Elles ont été incorporées dans la santé comme des ouvrières d'une industrie dont les patrons restent les hommes. Pourquoi donc? Et comment cela se fait-il qu'en 2023, cela soit encore le cas? La réponse tient en 4 chiffres. Seulement 45% des postes de direction sont tenus par des femmes. Et dans ces postes, il y a 80% de cadres soignants, mais seulement 15% de chefs d'établissement et 10% de directrices générales de CHU. On voit déjà que dans la hiérarchie de la direction, la mixité n'est pas encore tout à fait acquise. Cependant, cela tend à changer, notamment dans les écoles qui forment les dirigeants d'établissements de santé, où la parité est de mise dans les dernières promotions. Le sexisme se remarque également dans les pratiques ancrées dans le quotidien. Les femmes représentent 44% des médecins en exercice actuellement. Que de changements depuis 1866, l'année où Madeleine Braise, première femme diplômée de l'école de médecine, s'est inscrite dans une école. Cependant, il reste des spécialités où les femmes restent majoritaires, comme la médecine du travail ou la gynécologie médicale. Selon un nouveau rapport conjoint de l'Organisation internationale du travail et de l'Organisation mondiale de la santé, les femmes travaillant dans le secteur de la santé et des soins sont confrontées à un écart de rémunération plus important que dans les autres secteurs économiques, gagnant en moyenne 24% de moins que leurs homologues masculins. Comment cela se fait-il? En France, selon une enquête ministérielle de mars 2012, les femmes soignantes sont moins productives que les hommes, mais prodiguent de meilleurs soins. Cela a été analysé notamment par le fait que les généralistes françaises effectuent en moyenne 4150 consultations et visites par an, soit 24% de moins que leurs confrères, et travaillent 6 heures de moins par semaine, soit, entre guillemets, seulement 53 heures. Cependant, la durée de leur consultation est plus longue et leur façon d'aborder le patient est différente, avec une prise en charge plus globale. La féminisation des métiers du soin, notamment les médecins femmes ou les kinésithérapeutes femmes, qui sont 49% actuellement selon les derniers chiffres de la MACSF, n'exclut pas le sexisme ambiant dans les choix d'orientation. En effet, 37% des femmes affirment avoir déjà vécu des discriminations sexistes dans leurs choix d'orientation. Et 57% des femmes ont déjà subi des blagues ou des remarques sexistes. L'étude de Donner des ailes à la santé a identifié 80% des femmes comme étant déjà victimes de comportements sexistes et 67% d'entre elles qui ont fait face à des paroles ou des attitudes sur leur physique, apparence ou tenue vestimentaire. Un climat d'insatisfaction générale règne au sein des professionnels de santé féminines et les phénomènes de discrimination persistent. En effet, si les femmes sont plus prépondérantes dans certaines spécialisations comme la gynécologie, pour 72% d'entre elles, les hommes sont plus présents qu'elles dans tout ce qui s'agit d'activités de représentation, les conférences, les réunions institutionnelles, les congrès ou encore les plateaux de télévision. 68% des femmes considèrent qu'à travail égal, les hommes sont plus favorisés que les femmes dans le milieu médical. Et enfin, 65% déclarent que les femmes médecins se voient dire que la maternité et la vie de famille les empêcheront d'accéder à des postes de responsabilité. 40% qu'elles manquent d'ambition et 36% qu'elles ont moins de capacité que les hommes. Combien d'entre nous, les soignantes qui écoutent ce podcast, ont déjà subi ce genre de remarques ? Ce plafond de verre auquel se heurtent les femmes du soin médical représente un réel frein pour leur carrière et les ambitions professionnelles. Dans ce podcast, j'ai réuni des témoignages de femmes qui nous racontent les remarques qu'elles ont pu subir au quotidien au cours de leur carrière. Mais également, j'ai voulu rechercher s'il existait des études afin de pouvoir avoir des données chiffrées et pas seulement des témoignages. Une d'entre elles qu'on a pu trouver, c'est une étude canadienne qui exprime à quel point les stéréotypes de genre restent figés. Donc, cette étude exprime que notamment, les professionnels de santé masculins réfèrent de patients de manière disproportionnée à des médecins ou des chirurgiens masculins plutôt qu'à des chirurgiens ou des médecins féminins, bien que les deux sexes soient également qualifiés et expérimentés. L'étude a révélé que si les femmes étaient 1,6% plus susceptibles d'orienter les patients vers les femmes chirurgiennes, les hommes médecins étaient 32% plus susceptibles d'orienter les patients vers un chirurgien masculin, bien qu'ils aient accès à des femmes chirurgiennes également qualifiées. On assiste donc à une remise en cause des propres compétences des femmes. Ce n'est pas un métier pour les femmes. Je n'ai rien contre les femmes médecins, mais tout de même, elles ont pris la place d'hommes qui travaillent plus qu'elles. Ou encore, on renvoie, comme on disait, de collègues hommes plus systématiques. Et pour rappeler enfin, en juillet 2015, lors de la réunion de la Commission du développement durable au Sénat, Jean-François Maillet, élu Les Républicains de l'Indre, prend la parole à propos de la désertification médicale, attribuant en partie la cause du problème des déserts médicaux à la féminisation de la profession, puisque 75% des nouveaux diplômés sont des femmes. Et c'est alors qu'il lâcha une phrase qui déclencha une petite polémique estivale, comme on aime, les femmes médecins travaillent quand même moins que les hommes. On a donc des clichés comme ça qui sont ancrés dans l'imaginaire collectif, que ce soit au niveau personnel, au niveau des patients ou au niveau de nos confrères ou même au niveau de nos consoeurs. Or, nous savons très bien que cette répartition de charges de travail n'est pas due à une simple méconnaissance ou flemme de la part des femmes de travailler plus, mais bien du rôle primordial qu'elles jouent dans les responsabilités familiales et domestiques, et qu'elles passent beaucoup plus de temps que leur père masculin dans la garde d'enfants et des tâches domestiques. En France, une enquête de 2019 par Action Praticien Hôpital a déterminé que les hommes exercent peu en temps partiel pour 6% et les femmes bien plus avec 22%, avec quantité moyenne à 75%. En effet, la répartition des tâches domestiques et ménagères reste très asymétrique entre les hommes et les femmes, donc le niveau élevé d'études et le fort investissement professionnel ne changent pas les mentalités, et même pour les jeunes de moins de 45 ans. Cependant, il faudra retenir que l'augmentation du nombre de femmes soignantes a marqué la pratique médicale et la culture médicale avec un impact positif sur la qualité des soins et l'organisation des soins de santé. Comme on le disait avant, les femmes médecins passent environ 15% supplémentaires avec leurs patients, ce qui se traduit concrètement par une meilleure qualité et 6% de visites en moins par an. Elles se concentrent beaucoup plus sur une médecine préventive, ce qui permet une détection et une intervention plus précoce sur un grand nombre de pathologies émergentes. Dans la deuxième partie de ce podcast, on va donc s'attarder sur les différents témoignages que j'ai reçus, les écouter attentivement et voir ensuite si on peut les commenter, voir ce qu'on a à en dire. Et je remercie encore toutes les personnes qui ont accepté de témoigner et de m'envoyer leurs expériences et ce qu'elles ont pu vivre au quotidien dans leur profession. Avant de commencer à écouter les témoignages, je voulais aussi préciser que la plupart des personnes qui me les ont envoyées m'envoyaient systématiquement comme message d'entrée « Oh, je suis pas sûre que ça soit grand-chose et que ça concerne vraiment ton sujet, mais bon, maintenant que j'y réfléchis, j'ai quand même deux, trois petites choses qui me reviennent et je suis pas sûre que ça concerne le sexisme, mais je te les envoie. » Du coup, ce que je leur disais, c'est est-ce que la personne en face de vous aurait fait la même chose si en face d'elle, elles avaient une personne du sexe opposé ? C'est-à-dire si en face d'elle, elles avaient un soignant homme plutôt qu'une soignante femme ? Si la réponse est oui, alors on n'entre pas dans le cadre du sexisme. Si la réponse est non, alors oui, dans ce cas-là, on rentre dans le sexisme. Oula. On rentre dans le sexisme et c'est de la discrimination, donc le témoignage est plus que valable. On n'a pas de graduation dans les témoignages, c'est-à-dire que l'idée, ça va pas être de faire du putaclic ou de réussir à faire du pathos ou quoi que ce soit. C'est juste pour montrer que le sexisme, on sait pas quand est-ce qu'il commence, mais en général, on sait quand est-ce qu'il s'arrête. Je dis pas par ici que la moindre remarque sexiste va forcément conduire à des violences ou quoi que ce soit, mais je dis juste que c'est en éduquant nos pères, en éduquant pères P-A-I-R-S, nos confrères, nos consoeurs, nos patients, etc., qu'on arrivera à éviter d'avoir ce genre de remarques qui peuvent peser bien lourd sur notre santé mentale en tant que soignante.
Bonjour, donc moi c'est Clémence et je vais parler en tant qu'externe en médecine. Du coup, j'ai fait 3 ans d'externat. L'externat, c'est à partir de la 4e année et du coup, en fait, les études évoluent sous forme de sessions de 7 semaines de stage, puis on retourne en cours, puis on change de stage, donc on va dans un autre service. Et du coup, voilà, donc moi là, je vais parler d'un stage que j'ai fait en réanimation médicale avec tout le milieu, un petit peu des gens dans le coma, intubés. C'est quand même un stage où il y a plus d'hommes, je dirais. Ça tend peut-être à se changer, mais c'est une spécialité qui est prisée par quand même pas mal d'hommes. Et il y a ce statut un peu du réanimateur assez valorisé dans les imaginaires, dans les esprits. Et du coup, je me souviens d'une anecdote qui n'est pas très grave, mais qui m'avait vraiment mis en colère. C'est parce que du coup, moi, j'étais avec donc une interne. Donc c'était un peu l'interne, c'est la supérieure. Elle est plus âgée que moi, elle a plus d'années d'études, donc c'est elle qui me coach un petit peu et qui m'explique, qui me dit qu'est-ce que je peux faire pour l'aider et tout. Donc j'étais avec mon interne qui était une interne de réanimation, et on était vers une patiente donc qui était dans le coma. Et pour laquelle il y avait un souci infectieux. Donc en fait, on avait fait appel à l'équipe de maladies infectieuses. Et c'est une chef de clinique qui était venue. Donc une chef de clinique, c'est après l'internat ou quand on a un parcours en général universitaire, on prend un poste de chefferie. Donc c'est quand même une chefferie et c'est elle qui va gérer les internes, la chef de clinique. Donc c'est pas la chef de service, mais c'est une chef. Donc elle a passé sa thèse, elle est docteur, quoi. Et donc on était avec la chef de clinique de maladies infectieuses, mon interne en réanimation et moi-même. Et donc elle va donner un avis infectieux pour la patiente. Et à ce moment-là, il y a un chef en réanimation, donc un médecin en réanimation, qui entre dans la salle. Et le fait est qu'effectivement, le monsieur faisait peut-être 1m80 et nous, on était plus petites, on faisait 1m60. Mais il déboule dans la chambre comme ça avec sa veste et tout, ouverte en mode réanimateur, machin. Et il regarde, il y a un temps d'arrêt, il nous regarde toutes les trois, il rigole et il dit « Ah, c'est marrant cette homogénéité de taille, ouais vraiment c'est rigolo quoi. » En mode voilà, on est petite, lui il est grand et tout, et vraiment je me suis questionnée, mais pourquoi est-ce qu'il raconte ça? En fait, ça n'a rien à faire ici. Là, il y a une chef de service, il y a une interne en réanimation, il y a une patiente qui est intubée, il y a un problème infectieux qu'ils essayent de gérer. Et le mec déboule et la seule réflexion qu'il trouve à faire, c'est ce truc-là. De taille, quoi. Comme quoi on est petites toutes les trois, on est des femmes petites, lui il est grand, genre.
Alors j'ai choisi ce premier témoignage de Clémence, en fait, pour débuter. Donc là, on est un peu dans une preuve de ce qu'on appelle du sexisme intériorisé, c'est-à-dire que c'est une petite remarque, donc je pense que pour la personne qui l'a faite, le médecin en question, c'était rien de spécialement quoi que ce soit. Mais en fait, c'est juste que au bout d'un moment, quand c'est quotidiennement qu'on vous fait des remarques sur votre physique, sur n'importe quoi, même si ça peut être des remarques valorisantes, en fait, au bout d'un moment, vous êtes des professionnels de santé. Et là, il s'agit notamment de 3 professionnels de santé. Certes, il y en a 2 qui sont encore en formation, mais bon, qui restent des professionnels de santé entre une interne et une externe. Il n'y a pas de remarques à faire sur leur physique, sur leur manière de s'habiller, sur leur manière d'être coiffée. Elles sont là dans le cadre d'une patiente, d'une prise en charge de cette patiente, et c'est par rapport à cette prise en charge qu'éventuellement il y aurait potentiellement des remarques à faire, si tant est qu'il y en ait à faire, mais pas par rapport à une quelconque apparence physique telle qu'elle soit.
Et du coup là ça me concerne pas directement, mais quand j'étais en stage on discutait en fait avec 2 co-externes de justement en fait on discutait clairement de ce sujet quels sont les traitements sexistes auxquels on avait déjà eu droit en stage, est-ce qu'on avait déjà eu des réflexions, des gestes déplacés. Et la fille qui était avec nous nous a dit qu'elle s'était retrouvée en stage avec un médecin généraliste et qu'il avait déjà eu des mains sur sa cuisse en mode qui faisait passer pour ah on rigole hop là et sauf que elle ça la mettait hyper mal à l'aise, il avait déjà eu des ouais en rigolant il faisait des blagues ah là on pourrait s'embrasser et tout des trucs vraiment graves comme ça.
Alors il faut savoir que le médecin dont parlait ce témoignage a été condamné pour agression sexuelle et harcèlement sexuel sur ses stagiaires. Donc sur 6 de ses stagiaires en l'occurrence. Alors lui, il a présenté ça comme l'esprit carabin. Elles ont plutôt détaillé des avances sexuelles, des demandes de câlins, de bisous, des mains posées sur les fesses, sur les cuisses, des phrases du style... Je couche avec une externe sur deux, je n'ai pas couché avec la dernière, ben cette fois-ci ça tombera avec toi. Voilà, donc lui présentait ça comme des blagues, un petit peu lourdingues, certes. Et il s'est plaint ensuite bien évidemment, sa carrière qui a été détruite, parce qu'il a été inscrit bien sûr au fichier des délinquants sexuels, etc. Et il faut savoir que toutes ces remarques se faisaient jamais en la présence d'autres personnes. Du coup, c'est ce qui a permis aussi au procureur d'appuyer la parole de la femme, c'est-à-dire que s'il le faisait sans personne autour, c'est qu'il savait qu'il y avait un côté qui n'était pas forcément adéquat. Donc la libération de la parole de la femme étant libérée, il était essentiel que l'institution judiciaire l'entende pour reprendre les propos du magistrat.
Tout ça. Mais moi, j'ai déjà vécu du sexisme au travail, principalement, quand j'étais en assistanat... à la Martinique. Et il y avait mon collègue, mon collaborateur, qui a eu plusieurs fois des propos sexistes envers moi, il m'a dit plusieurs fois que je fallait pas que je mette de shorts. Enfin, eux, ils étaient tous en shorts, les deux mecs. C'était que je devais pas mettre de shorts parce que ça déconcentrait les patients. Des remarques comme ça, quand c'était des mecs qui arrivaient en soins qui me disaient « Oh bah, on va pas les mettre avec, ça va être déconcentré » ou des choses comme ça. C'était vraiment des différences de traitement entre nous, les femmes kinés, on était ça dans le cabinet, et les mecs kinés. Ça m'énervait et à l'époque je savais pas quoi répondre. En fait, je viens de repenser à des trucs, je te les rajoute du coup. Je me rappelle qu'une des fois où je travaillais, il y avait un collègue qui était venu pour voir un possible assistant. Et j'étais au bureau et mon collègue il m'avait dit « Ah bah tu vois, ça c'est la secrétaire et puis bah moi je suis kiné et tout. » Et j'avais trouvé ça hyper, bien sûr que c'était pour rire, mais j'avais trouvé ça hyper dégradant qu'ils me disent, qu'ils me présentent comme étant la secrétaire alors que lui était le kiné, alors qu'on était tous les deux kinés et que je faisais juste de la paperasse. Et autre chose, j'avais des pantalons un peu ouverts sur les côtés, forcément on était en Martinique, il faisait chaud. Et déjà que j'avais pas le droit de mettre des shorts, enfin je me sentais pas d'en mettre. Et j'avais du coup des pantalons ouverts. Et une fois il était venu, alors qu'il travaillait même pas en même temps que moi, il avait dit en mode « Ah bah dis donc Guimette, je sais pas comment font tes patients pour se concentrer et tout. Tu fais quand même tout pour pas qu'ils soient concentrés sur les exercices. » Et voilà, bref, ça m'énervait. Un dernier, il y a vraiment tout qui revient d'un coup. Il y avait un patient qu'on devait le mettre au fauteuil les jours. On passait chez lui à domicile et un de mes collègues, il avait dit en mode « Ah, ben oui, mais ça, c'est plutôt pour un des collègues mecs. Les filles, vous n'en êtes pas capables. On va laisser ça plutôt à mon collègue garçon, du coup, pour faire le travail. » J'avais trouvé ça hyper sexiste, sans même nous demander l'avis, si on était OK de le faire ou pas. C'était vraiment, il partait du principe qu'on n'en serait pas capable, alors qu'en fait, j'en étais capable, vu que c'est moi qui y suis allée après.
Me revient aussi un super souvenir. Donc, j'étais en quatrième année et c'était une matinée où j'étais au bloc opératoire de chirurgie vasculaire. Et ce qui se passait, c'est que du coup, l'interne n'était pas là. Donc, je sais plus, il y avait un congrès, il n'y avait aucun interne. Du coup, ils avaient demandé aux externes d'aider et de faire un peu la place de l'interne au bloc. Donc ce qui se passe, c'est qu'on essaye de faciliter l'opération au chirurgien ou à la chirurgienne en tenant des outils,
en leur reprenant des pinces, en leur en donnant d'autres, etc. On aide un petit peu, on donne un coup de main. En plus de l'infirmier ou l'infirmière de bloc qui est hyper fort là-dedans. Et du coup, bah là, moi, j'étais là en plus. Et il y avait une plaie au niveau de l'artère du ventre à voir. Et en fait, ils incisaient le ventre pour accéder à l'artère. Et pour bien voir, il y avait besoin de tenir des écarteurs. Donc, qui sont... comment décrire ça? C'est comme un petit crochet, mais un crochet pas pointu, quoi. Un crochet qui permet de tenir un peu la peau écartée des deux côtés pour bien voir à l'intérieur et que la personne puisse opérer sans difficulté, quoi. Et voilà, je me souviens de ce chirurgien qui m'avait donné les écarteurs et qui m'avait regardé vraiment avec insistance un peu malaisante en me disant « Vas-y, écarte bien !» Et voilà, donc avec le sous-entendu derrière, c'était hyper gênant. Puis je pense que ça faisait une semaine que j'avais débuté le stage. Je savais ultra pas où me mettre. C'était vraiment pas cool.
Du coup, là, avec le dernier témoignage qu'on a eu, on voit qu'il y a à la fois une remise en place, que ce soit au niveau vestimentaire qu'il fallait faire, parce qu'évidemment, pourquoi est-ce qu'on aurait le droit de porter la même tenue que ces messieurs, alors qu'en tant que femme, on ne ressent pas ni la chaleur, ni l'humidité, ni quoi que ce soit. Mais il y a aussi, on voit de nouveau une remise en question des capacités en tant que praticienne ou en tant que kinésithérapeute. Parce que ça soit au niveau d'être reléguée au rang de secrétaire alors qu'on a le même métier, les mêmes études, ou encore par rapport à la capacité physique et la force physique de prendre en charge certains patients. Donc c'est des stéréotypes qui restent ancrés et c'est le genre de choses qu'on retrouve aussi dans d'autres témoignages que j'ai reçus qui sont pour le coup pas d'un niveau vocal mais que du coup je vais pouvoir vous en parler moi-même. Qu'il s'agisse de blagues malaisantes lorsqu'on s'occupe d'un patient, par exemple que la beauté allait faire trop d'effets, que les patients devaient être contents d'être pris en charge par des si jolies personnes, que c'était sûrement grâce à ça qu'il y avait un si bon taux de réussite dans les rééducations ou dans les prises en charge. Et ce qui finit pas même par mettre mal à l'aise certains patients d'ailleurs. La plupart de ces témoignages, c'est pas des témoignages, les personnes précisent à chaque fois que ce n'est pas si grave, même si c'est pas normal, et que au final il faudrait faire les remarques à ces personnes, mais que dans leur cas, elles, c'est pas forcément dramatique. Mais on retrouve par exemple, pour le coup, il y a aussi un témoignage d'une dame où le patient qui a été ramené par un agent des forces de l'ordre qui lui dit oh bah c'est bon, vous allez aller mieux, docteur Barbie va s'occuper de vous. Donc voilà, non, c'est pas une manière de se comporter par rapport à une personne en face de vous qui va s'occuper d'un patient que vous ramenez. Il y a aussi une autre kiné qui m'a écrit en me disant qu'elle était kiné spécialisée du sport et que pendant un stage, son confrère lui disait « Ah ben non, mince, tu pourras pas y aller parce que je t'ai pas donné les bons outils pour masser, faut appuyer fort, puis vu ton gabarit, t'y arriveras pas. » Mais qui a été vite remis en question par le patient qui disait « Ah ben non, non, c'est bon, il n'y a pas de souci. » Ou encore des pauses repas avec des remarques sur les poitrines. « Oh bah tu vois, si j'avais une copine comme elle, non seulement elle me ferait à manger, mais en plus elle aurait des arguments pas mal. » Donc en fait, faut pas s'imaginer que parce qu'on est dans le monde médical, on enfile une cape invisible qui rend tout le monde neutre. Le monde de la santé, le monde soignant, il est comme le monde réel, une fois de plus. Et les remarques que les confrères nous font à nous, ou que même les consœurs, ça peut arriver aussi, nous font à nous, en fait, elles peuvent aussi déteindre sur certains patients. Et s'ils pensent ça de nous, qu'est-ce qui font que ça pourrait pas se passer, par exemple, avec un patient? Et d'ailleurs, justement, les remarques, elles viennent pas forcément que des confrères ou des médecins ou des agents d'autorité ou ce genre de choses. Ça peut aussi venir de la part de patients. Alors, de la part de patients, ça peut être des remises en question par rapport à nos compétences professionnelles. Mais ça peut également être des permissions de toucher qui vont s'auto-accorder. Moi, je me souviens d'un patient assez âgé qui me faisait des remarques sur la manière dont je m'habillais et qui me disait « Ah, mais pourquoi est-ce que moi, j'ai pas le droit de vous toucher alors que vous me touchez ?» Voilà, c'est des choses qui nous mettent mal à l'aise, surtout qu'à l'époque, en plus, j'étais toute jeune diplômée en remplacement, donc j'osais pas dire grand-chose, donc j'ai préféré tout simplement mettre fin aux soins. Mais dans la plupart des... des cas où on ne devrait pas laisser passer ce genre de remarques. Ça devrait être des remarques qu'on devrait expliquer aux patients à quel point non, c'est pas normal, ou mettre fin aux séances et ou le transférer à des collègues, parce que juste c'est pas possible d'accepter encore ça comme remarque, quel que soit l'âge du patient.
Me revoilà pour évoquer un autre souvenir de cet été. Du coup, je faisais un faisant fonction d'interne. Donc, c'est entre l'externat et l'internat, un stage où on a comme un poste d'interne, quoi. C'est juste qu'on n'est pas officiellement interne parce que la rentrée n'est pas passée. Peu importe, du coup, j'étais en néphrologie, donc le service des reins. Et donc, j'avais à prendre en charge des externes qui étaient des étudiants plus jeunes que moi. Donc, pour un peu cette histoire de continuité de la formation, je leur expliquais ce que moi je connaissais. Ils m'aidaient à faire des papiers ou des examens de patients et de patientes et tout. Et du coup, il y avait un externe qui était avec moi, qui était... Alors, il faisait à peu près ma taille. Du coup, il me suivait, je lui expliquais les choses et tout. Et en fait, à chaque fois qu'on allait voir de nouveaux patients et de patientes, systématiquement, quand on rentrait dans une salle, on disait bonjour monsieur, bonjour madame et tout. Et systématiquement, mais surtout les hommes peut-être, mais peut-être tout le monde en fait, s'adressaient à lui. Bonjour docteur, donc il parlait à lui. Et il disait bonjour docteur, aujourd'hui, il y a ci, il y a ça, là 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 là. Et alors que même des fois, ça a été des deuxièmes années, donc ils connaissaient vraiment rien, essentiellement parce que c'est normal de rien connaître en deuxième année. Et direct, ils s'adressaient à eux, quoi. Donc moi, ça me mettait aussi dans une position gênante où à chaque fois, fallait que je leur dise « Non, non, mais c'est moi, en fait. » Enfin, puis j'aimais pas dire « C'est moi le docteur » parce que j'étais pas encore docteur. Enfin, je le suis toujours pas, mais... Du coup, c'est gênant parce que d'office, on arrive, on est la femme, donc on est bien évidemment la sous-homme, quoi. Voilà. Des hommes à partir de... 60 ans, là, qui faisait des réflexions à chaque fois quand on était plusieurs étudiantes, où il suffisait qu'il y ait une étudiante infirmière, une étudiante aide-soignante, une étudiante externe, ou une infirmière, enfin bref, des femmes soignantes autour. Et à chaque fois, il y avait souvent cette petite réflexion « Oh, que c'est agréable d'avoir autant de femmes pour moi, pour s'occuper de moi, c'est mes petites femmes », enfin voilà, des trucs comme ça, en fait, on est là, on est dans le soin, et puis à chaque fois, on est juste remise à la place de femmes pour... gravité autour de ces messieurs. Donc, jamais très agréable. Et du coup, difficile aussi parce que quand on va être dans des services où, en l'occurrence, ce sont des personnes qui ont des maladies hyper graves, qui ont peut-être une espérance de vie de 8-9 mois, que ça fait peut-être 3 semaines qu'ils sont non-stop à l'hôpital sans savoir quand ils vont sortir, y a une certaine forme d'empathie et de... on a envie de bien prendre soin de ces gens-là. Les accompagner comme il faut, de les soutenir parce que c'est une épreuve dure. Et après, il y a des réflexions comme ça qui sont juste pas possibles, mais c'est pour le coup pas très facile de savoir comment se positionner et comment juste les envoyer chier, alors que d'un côté, leur situation, elle est pas hyper cool non plus, elle est pas facile au quotidien, mais on peut pas se permettre de laisser passer ce genre de phrases. Voilà. C'est trop drôle, je crois que j'avais pas tant de trucs à raconter et plus je raconte, plus des souvenirs rejaillissent. Donc continuons sur cette lancée. Je suis en 4e année de médecine aux urgences traumato. On fait des gardes la nuit. Et du coup, on est avec un interne ou une interne. Et là, il y a un monsieur qui arrive, une quarantaine d'années, parce qu'il a perdu le contrôle de sa scie à bois. Et il s'est fait une plaie au niveau du doigt, la pulpe du doigt. Donc mon interne qui était avec moi arrive, elle regarde s'il n'y a pas de problème majeur. Et comme il n'y avait rien d'aggravant, elle me dit « vas-y, tu recous ». Donc elle s'en va, elle me laisse avec le monsieur pour que je lui recoude le doigt. Et donc moi je suis quelqu'un de plutôt énergique, j'ai envie de mettre les gens bien à l'aise. Donc j'ai pas de difficulté à les mettre confortables, à faire un peu la conversation pour rendre le moment agréable, quoi. Donc je commence à m'installer pour recoudre ce monsieur, puis on discute un petit peu, etc. Il me raconte un peu qu'il a deux fils, qu'il va aller chercher à droite à gauche dans leurs activités, qu'il est divorcé récemment, etc. Donc il me raconte un peu sa vie, mais c'est aussi le truc des fois dans le soin, où même si c'est le soin physique, il y a des gens qui se confient un peu plus et puis on les écoute et c'est très bien. Et je finis la plaie. Et au moment de...
Enfin voilà, je remets le petit pansement et tout. Je dis bah super, cette plaie est bien belle. Ça, j'espère que ça cicatrisera bien. Et il me dit, ben si vous voulez, je prends votre numéro et je vous envoie une petite photo de la cicatrisation. Et puis pourquoi pas boire un petit verre après. Ouais, ça m'a fait trop chier quoi, parce que déjà, ben on est en tenue vraiment, on est censé être neutre quoi. J'avais un masque donc il voyait la moitié de ma tête. En plus, en discutant, il savait que, enfin, j'étais jeune quoi. Déjà le mec il avait le double de mon âge à moitié. Et ouais, ce truc là où en fait moi là j'étais dans une position de soignante. Et bam, encore une fois, ben en fait non, c'est sexualiser une relation, potentiellement c'est du flirt, et on se permet là comme ça, dans un milieu hospitalier neutre, de m'intimider comme ça quoi. Et le pire, et ça j'en suis pas très fière, c'est que du coup moi j'ai pas trop su dealer comment faire, et je lui ai donné mon numéro de téléphone parce que je me suis sentie coincée, et c'est ça qui est terrible. Je trouve qu'on est quand même assez jeune et tout, et là maintenant ça se passerait absolument pas comme ça. Mais sur le moment, voilà. Donc, et il m'avait envoyé des photos de son doigt par la suite, effectivement. Donc j'avais jamais répondu, il n'avait pas réinsisté, et tant mieux. Mais j'ai quand même pas été capable soit de mettre un faux numéro, soit de dire non. Donc je pense, avec le recul, que je me suis sentie un peu bloquée, quoi. C'est pas cool.
Alors j'ai vu une pelletée de mains aux fesses, mains très baladeuses, qui se retrouvent là totalement par hasard. Parce que la personne a glissé de remarques sur le physique. Et puis finalement, c'est plus un épisode qui s'est déroulé il y a 4 ou 5 ans qui m'a marquée. À cette époque, j'étais assistante dans un cabinet avec deux titulaires en début de trentaine. C'était un homme et une femme. Et il y avait ce patient un petit peu particulier qui venait très régulièrement depuis l'ouverture du cabinet, donc il avait une relation assez amicale avec les titulaires, et quand il avait besoin, pas de problème, on trouve un spot, on se débrouille, on trouve un endroit où le caser, et souvent ça tombait sur moi en fin de soirée quand j'étais toute seule au cabinet. Et donc c'était quelqu'un qui partageait beaucoup sa vie très intime et sa vie très personnelle, et qui attendait de ce fait que la personne en face fasse de même, ce qui n'était pas tout à fait moi mon style, et qui était très insistant pour connaître tous les détails de ma vie de manière générale. Et la seule chose que j'avais concédée à un moment, parce qu'il était particulièrement agaçant et particulièrement insistant, c'est je lui avais dit que j'avais un copain. Et donc ça continue comme ça systématiquement chaque séance, parce qu'il y en avait beaucoup, c'est que des remarques, que des allusions, que des blagues un petit peu lourdingues, voire pire. Et un soir, on me dit « Oh là là, faut que je te raconte quand même, la première fois que je suis arrivée au cabinet, tu m'as vachement plu, je t'aurais bien plaqué contre le mur là quand même. Puis là, maintenant, je le ferai aussi, parce que de toute façon, j'en ai vachement envie, et qu'est-ce qui m'en empêche ?» Mais bon, t'as quelqu'un, donc je vais pas le faire. Donc premier constat déjà, c'est que un petit peu plus de respect pour un gars qu'il a jamais rencontré que pour moi qui le soigne depuis déjà maintenant plusieurs mois. Et donc il continue comme ça en disant, puis en plus, tu veux rien me dire de ta vie, je sais même pas où t'habites. Je te vois partir tous les soirs du cabinet, parfois je te suis sur quelques mètres. Des fois je me dis, oh je devrais la suivre jusqu'au bout pour avoir son adresse et savoir où elle habite. Mais vraiment, sans aucun doute, hein, il commence à me raconter ça. Il dit, là j'hésite, des fois c'est pas facile parce que j'ai pas tout à fait identifié quelle était ta voiture. Mais j'aimerais bien te suivre parce que je comprends pas pourquoi tu veux pas me dire où t'habites. Mais vraiment, avec le plus naturel, enfin, le ton le plus naturel du monde, un petit rire pour essayer de faire passer le truc. Et voilà, donc là, dans ces cas-là, moi j'étais encore sans trop d'expérience, je sais pas trop quoi faire, je suis toute seule déjà. Et puis c'est compliqué de botter en touche dans ces cas-là, c'est compliqué de le mettre dehors aussi. Parce qu'on se dit, est-ce que peut-être c'est pas moi qui exagère ? Bon, a posteriori, non. Et le seul truc, finalement, encore une fois, qui l'a fait s'empêcher, je lui dis, mais si tu me suis, de toute façon, t'arriveras chez mon copain, donc je vois pas trop ce que ça peut t'avancer. Et donc là, après ça, ça a été, je pense, notre dernière séance, parce que le lendemain, j'en ai parlé au titulaire, et eux ont vraiment traité ça à la légère. Ils m'ont dit qu'après tout, j'avais absolument pas d'humour. Et que oui, mais bon, tu sais, faut faire un effort, parce que lui, il vient depuis le début, depuis l'ouverture du cabinet, et que ça se fait pas trop comme ça. Donc après, je me suis toujours débrouillée pour jamais l'avoir. Jamais. Et j'ai regardé souvent dans mon rétroviseur quand même au début, parce que moi je savais quelle voiture il conduisait. Donc les premières semaines, dans le doute, parce que je me doutais qu'il allait savoir que je voulais plus l'avoir dans mes patients, dans le doute, je faisais des petits détours où je regardais systématiquement dans mon rétroviseur. Voilà.
Je m'appelle Margot, je suis kinésithérapeute depuis 6 ans. Le témoignage que je vous partage concerne une situation que j'ai vécue dans les premiers mois de mon exercice. J'étais alors remplaçante. La collègue que je remplaçais m'avait noté dans les transmissions qu'un patient était un petit peu spécial, bizarre, mais sans préciser. Le patient arrive, il vient pour un problème de dos. Je lui demande de se mettre dans la cabine de soins, qui était alors délimitée par des rideaux, en précisant que j'arrive dans la foulée. Le temps de récupérer quelque chose sur le bureau, je regarde en direction de la cabine, et là je vois par transparence, à travers les rideaux, que le patient se déshabille, sans que je lui ai demandé, et qu'il s'allonge sur la table, sur le dos. J'arrive alors dans la cabine, et là, stupeur, le patient est en monokini et en érection. Je me fige, j'essaye de faire abstraction, et lui demande de remettre son bas. Il ne bouge pas, et insiste en me disant qu'aujourd'hui, il est venu pour un problème d'adducteur, dont le tendon d'insertion se situe près du pubis. Il me montre bien la zone, et me demande de venir toucher. À ce moment-là, je suis seule dans le cabinet, c'est le dernier patient du soir, et je suis complètement désemparée. Comment s'est terminée cette situation ? Eh bien, au final, j'ai réussi à esquiver en lui disant que je ne pouvais pas traiter des zones qui n'étaient pas notées sur l'ordonnance et qu'il devait absolument revoir son médecin pour avoir ce genre de rééducation.
Et je suis kiné en libéral depuis 5 ans. Donc, en fait, quand on est une petite nana dans le domaine de la santé, on est souvent confronté à des remarques misogynes, des situations délicates ou des gestes déplacés. Alors la plupart du temps, ça va venir des patients du genre masculin, mais ça peut aussi venir de certaines patientes, donc ce qui est un petit peu plus rare. Ma première expérience, en fait, c'était en deuxième année d'études. J'étais en stage en chirurgie thoracique et je devais pratiquer un désencombrement bronchique chez un patient fraîchement opéré. Donc on commence la séance tranquillement, je pose mes mains sur son thorax et là il me sort, ça frétille là-dessous et essaye de faire descendre mes mains plus bas. Alors jusqu'à ce que je capte ça en fait, monsieur était en pleine érection. Donc je suis partie de la chambre et je suis allée voir ma tutrice de stage en lui expliquant que j'étais mal à l'aise et que je savais pas trop comment réagir. Et là en fait, elle a osé me répondre, bah il n'y a pas à réagir, on poursuit la séance et puis on fait comme si de rien n'était. Donc... Et en plus, c'était une période où vraiment je me demandais si j'allais continuer de faire ces études parce que je ne savais pas si c'était vraiment un métier fait pour moi. Ensuite, j'ai fait d'autres stages, notamment un stage en scénologie où là, je me suis rendu compte que quitte à faire ce métier, autant être entourée de femmes en fait et me spécialiser dans un domaine qui touche plus particulièrement les femmes, même si certains hommes ont quand même... peuvent avoir un cancer du sein. Du coup, j'ai poursuivi mes études, j'ai fait des remplacements et à l'issue du diplôme, j'ai fait des remplacements et là, les remarques, ça fusait quoi. Et alors, elle est mariée, la petite demoiselle, vous faites un massage, hein, parce que vous n'avez pas assez de force pour me manipuler, vous. Puis, un jour, je remplaçais aux alentours de Saint-Louis et là, j'ai un patient qui m'a fait une caresse au niveau du mollet. Et en fait, j'étais hyper mal à l'aise et j'ai juste reculé en fait et j'ai continué la séance sans dire un mot, sans réagir au final quoi. Et c'est assez, je pense que c'est avec le temps et avec l'expérience qu'on arrive à remettre les patients à leur place. Mais c'est vrai que quand on vient d'être diplômé, qu'on n'a pas forcément le bagage derrière nous, c'est plutôt difficile de leur faire comprendre qu'il y a une place, qu'on est thérapeute et qu'à ce titre-là, on avait le droit au respect. Et du coup, je me suis spécialisée en drainage lymphatique et cancer du sein. Et au départ, avant de se faire connaître dans la spécialité, on prend un petit peu tous les patients qui viennent, hommes et femmes confondus. Et je me souviens d'un patient qui était très insistant, qui un jour m'a même fait une demande en mariage, quoi. Et là, j'avais demandé à mon collègue de jamais me laisser seule, en fait, dans la salle de rééducation avec lui, parce que vraiment, il me mettait mal à l'aise. Je suis Mégane, je suis kiné en libéral depuis presque 6 ans maintenant. Et j'ai été plusieurs fois victime, entre guillemets, de remarques déplacées, surtout de la part de patients qui se permettent un petit peu des choses du fait que je sois une femme, et d'autant plus quand j'étais sortie tout juste de l'école. Donc il y a carrément une fois où j'ai dû arrêter les soins parce que ça devenait beaucoup trop gênant, malaisant et malsain comme relation patient-soignant. J'ai un patient qui, à chaque séance, me regardait droit dans les yeux en me disant tout le temps que j'étais belle, que c'était incroyable comme j'étais belle, que c'était super quand je faisais bouger son épaule, que s'il était plus jeune, il tenterait des choses. Enfin, vraiment, on n'était pas sur une approche très subtile. Donc, au bout d'un moment, j'ai arrêté les séances et je l'ai redirigé vers un de mes collègues masculins. Et bizarrement, ça lui a moyennement plu et les séances se sont arrêtées. Donc, voilà, ça, c'était le premier patient. J'avais un autre patient qui, je pense, ne se rendait même pas compte du fait que ses propos étaient déplacés. C'était un patient assez âgé, d'une autre génération, avec une autre éducation. À chaque fois, en été, je travaille dans le sud de la France, donc quand il fait 40 degrés, je venais travailler en short. Et certains jours, j'avais un pantalon, mais bon, ça, j'ai envie de dire, il n'y a que moi qui décide. Et à chaque fois que je revenais en pantalon, il me disait « Oh, je préférais quand vous étiez habillée hier. Oh, c'était mieux quand vous étiez en short. » Donc, ce qui est aussi déplacé, mais je pense que lui s'en rendait même pas compte, ce qui est encore plus grave.
Donc, vous avez pu un peu entendre pas mal de témoignages. Et en fait, il y a plusieurs points communs dans ces témoignages. C'est que globalement, à chaque fois, la personne qui entend ces propos, à qui ces propos sont adressés, c'est elle qui finit par être mal à l'aise, qui finit par ne pas savoir quoi dire. Parce qu'à la fois, on est coincé entre le fait c'est notre patient ou notre patiente. On veut le soigner, on veut qu'il aille mieux, on veut le meilleur pour cette personne. Mais d'un autre côté, on n'a pas accepté ce genre de comportement et on n'a pas à tolérer que la personne qui vient pour nous se permette de dire des choses comme ça. Des choses qu'elle se permettrait, ça se trouve, jamais de dire à un ou une inconnue dans la rue, mais qu'elle se permette de dire à une professionnelle de santé, et que ça n'aurait pas été le cas si jamais ça avait été un homme en face d'eux. Donc je pense que ce qu'il y a à retenir, c'est qu'on a encore beaucoup à faire pour éduquer nos patients, nos confrères, et que c'est à nous de voir comment on peut réfléchir ensemble à changer cette part-là de notre quotidien, de notre société, de voir comment on peut éduquer nos patients, éduquer nos confrères, et travailler à mériter qu'on nous traite avec respect, parce qu'on a les mêmes qualifications et que c'est pas parce qu'on a un autre sexe, un autre genre, qu'on doit être traité différemment de nos confrères, que ce soit de la part des patients ou de la part de ses confrères eux-mêmes. Voilà. J'espère que vous avez pu vous rendre compte un peu de la variété de témoignages, et même s'il y a beaucoup de similarités, on se rend compte que c'est quand même sur différents métiers, pardon, et différentes personnes qui témoignent ça. Donc c'est vraiment dans l'idée de montrer que c'est systémique et que c'est pas uniquement des témoignages isolés. Voilà. Et encore, il n'y a même pas la moitié de ce que je voulais dire qui tient dans cet épisode. On en pourra, je pense, en reparler. On refera d'autres épisodes sur ce thème-là, parce que il reste encore plein de choses à aborder sur ce sujet, sur le sexisme envers les praticiennes de santé, les soignantes, les médecins, les infirmières, etc. Et de leur vision par le reste du corps médical, mais que ça soit aussi par leurs tuteurs, tutrices, et par toutes les personnes qui participent à cette formation et qui participent aussi à la systémisation du sexisme. Voilà, c'est tout pour l'épisode d'aujourd'hui. Merci d'avoir écouté jusqu'ici. N'hésitez pas à partager sur vos différents réseaux. C'était Victoria pour Féminisanté.